On va continuer notre adoration. Juste un rappel, j'ai mis chaque fois l'adoration par la prière, par l'offrande, par la prière, par la lecture de la Bible. Et pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est trop facile de dire oui, l'adoration c'est la musique. Si on chante, on loue, mais le reste c'est peut-être c'est l'éducation ou c'est juste les parties de l'Église qu'il faut faire parce qu'on l'a fait depuis longtemps. Mais en fait, ce que Dieu cherche, c'est que nos cœurs soient vraiment en adoration, en écoutant à sa parole. Et en priant, en donnant, mais aussi en réfléchissant un peu plus profondément sur sa parole. On est toujours en Galates, et le thème de Galates, c'est quoi? La liberté en Christ. Et contre toutes les conceptions modernes du christianisme, que l'Église, la Bible, tout cela existe pour nous rendre captifs, esclaves, pour contrôler tous les aspects de nos vies d'une manière méchante, en fait, ce que Dieu veut, c'est qu'on soit libre, libéré de toutes les principes élémentaires, comme il dit en Galates, qui sont pour nous des sources d'esclavage. Aujourd'hui, on va considérer la connaissance et la servitude. Galates chapitre 4. Et on va lire ensemble les versets 8 à 11. Paul continue, il a terminé le verset 7 en disant « Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Donc, ça c'est un peu l'apogée de cette section. Vous êtes fils et pas esclave. Maintenant, il va parler du passé. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu par Dieu, de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres, ou misérables, ou inutiles principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Vous observez le jour, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé. Alors, on voit, il répète cette idée de la connaissance et de la servitude et on veut voir le lien. Donc ce qu'on va faire, c'est juste observer que la connaissance de Dieu et la vie éternelle. D'accord? Ce ne sont pas deux choses qui sont différentes. Ne pas connaître Dieu, c'est l'esclavage au non-Dieu ou au faux-Dieu. L'enjeu de vouloir vivre selon un principe élémentaire. Ça, c'est ce qu'on va considérer ce matin. D'abord, juste cette idée que la connaissance de Dieu est la vie éternelle. La connaissance. Quand on pense à ça, il faut qu'on note tout de suite que quand Paul divise la vie, il divise la vie seulement en deux parties. Et ces deux parties sont caractérisées par la connaissance de quelqu'un. Soit vous connaissez pas Dieu, soit vous connaissez Dieu. Et vous êtes connu par Dieu. Nous divisons la vie d'une autre manière, à plusieurs époques, chaque vie. Mais en fait, les deux grandes parties, c'est caractérisé par la connaissance. Mais Ça souligne quelque chose, n'est-ce pas? Ça soulève des questions. C'est quoi cette connaissance? Oui, maintenant, je connais l'histoire de Jésus. J'accepte au niveau intellectuel. Est-ce que ça parle de quelque chose qui est plus profond que ça? On va juste réfléchir. On va voir que la connaissance de Dieu indique une relation proche et familiale. Tu parles de la connaissance ici. Il ne faut pas se tromper et dire, oui, je connais toutes les doctrines de l'Église. Je l'accepte, le conseil de Nicéen, de Chalcédoine, et tous les apôtres, et toutes ces choses. Je connais ce que dit la Bible, d'accord, j'accepte, ça c'est ce qui est les doctrines de l'Église, et maintenant je fais partie de l'Église. Non, ça c'est pas ce qu'il veut dire ici. Dans un sens, la connaissance communique la possession d'informations. D'accord? Oui, je connais. D'accord? Par exemple, Luc 16, 14 et 15. Les Parisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de Jésus. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Nous venons de lire, vous connaissez Dieu, plutôt vous êtes connus par Dieu, mais ici, Dieu connaît les cœurs. Est-ce qu'il y a une différence? Parce qu'on ne veut pas dire que Dieu, on dit en fait que Dieu connaît tout. D'accord? Quelle est la différence entre être connu par Dieu comme ici, quand il connaît les cœurs, est connu par Dieu en Galates quand il dit « Vous avez été connu par Dieu. » Et ça, c'était un changement. C'est ici. Ici, il parle du fait que Dieu, il a la possession de l'information. Il sait ce qui existe en nous. Mais ça ne communique pas plus que ça. Ici. Ou on peut dire, en Romains chapitre 1, il parle des personnes qui ne croient pas. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. Ils possèdent l'information sur Dieu. Et comment? Ils voient dans l'univers le fait qu'il doit être un être tout puissant et divin. Et plus tard, qui juge. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. C'est le même mot, connaître. D'accord? Ils possèdent l'information, ici, et bien, ayant cette connaissance, ils n'ont pas la relation avec Dieu. Ils ont choisi différemment. Vous voyez, c'est. On utilise le même mot, mais avec plein de niveaux différents. D'accord? C'est un peu comme ici en France, on utilise le mot connaître. Et c'est un peu difficile pour moi parce que je suis étranger. D'accord? Et si vous dites à moi, est-ce que vous connaissez président Macron? D'accord? Ma première réponse, c'est de dire non. Parce que en anglais, ce que j'ai traduit, c'est est-ce que j'ai une relation avec lui? Ah non, j'ai jamais rencontré cet homme. Hein? Mais en français, cela veut dire est-ce que vous connaissez? En anglais, je dirais un peu quelque chose comme est-ce que vous connaissez quelque chose sur lui? Est-ce que vous avez entendu de lui? Enfin, je peux dire oui, mais la connaissance, non. En anglais, mais en français, connaître peut servir comme avoir l'information, mais aussi d'avoir une relation, n'est-ce pas? Ça, c'est la même chose en grec avec ce mot qui est en dessus, gnosko, d'accord? Ok. Dans un sens, la connaissance communique la possession d'informations. Dieu connaît tout. Il a l'information sur tout. Encore une chose, Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Donc il y a cette connaissance, l'information qu'il a, mais pas de relation parce qu'il ne se confie pas. D'accord? La relation est. Pour une relation d'exister, il faut avoir cette confiance pour se confier à quelqu'un. Mais dans un autre sens, la connaissance communique une relation proche et intime. D'accord? Ici, Jean, Jésus dit, il a dit par rapport à ces personnes, je les connais et donc je ne me confie pas. Mais ici, je connais mes brebis et ils me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Est-ce que ça, c'est une connaissance plus profonde que juste la possession de l'information? Oui. Quand il dit « Je connais mes brebis », c'est-à-dire quand il, à cette époque-là, il arrive dans le champ devant la porte, il dit quelque chose, il peut les appeler par nom, et ils sortent les brebis parce qu'ils reconnaissent sa voix, et lui, par la vue, il connaît ses brebis. Une relation proche. Encore Matthieu 7, l'autre côté du médaille. Hein? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça, c'est dans la scène d'un jugement. On arrive devant Jésus et il dit, je ne vous ai jamais connu. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'avaient pas d'information sur eux? Non, pas de relation. Pas de relation entre Jésus et eux. Et la conséquence, c'est qu'il faut aller de la présence de Jésus et de Dieu. Il faut quitter sa présence. Et pour nous, juste un petit rappel. C'est cette connaissance de quoi on parle aujourd'hui. Est-ce que Jésus nous connaît? Connaissons-nous Jésus? Sinon, il va dire un jour, retirez-vous de moi. Il faut avoir cette relation. Notre passage, Jean 17, 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Est-ce que ça, c'est notre perception aujourd'hui? Nous disons, oui, j'ai la vie éternelle, et ça, c'est quelque chose qui va commencer après la mort ou après que Jésus revient. Si ça, c'est notre façon de penser, ça, c'est pas biblique. Parce que Jésus dit, vous avez maintenant la vie éternelle. Et comment? Parce que nous avons déjà la connaissance de Dieu. Une relation de Dieu. On ne peut pas dire seulement, je connais les doctrines sur Dieu, donc ça va. J'ai maîtrisé le catéchisme, ça va. Non. Est-ce que je connais cette personne, Dieu? Et est-ce qu'il me connaît? Est-ce que vous voyez la beauté? On vient de chanter de la beauté d'amour de Dieu en Jésus-Christ. Est-ce que nous voyons que Dieu nous invite de plus que simplement faire partie d'une grande association en disant oui, j'accepte les termes? Il nous dit, venez à moi, je serai votre père et vous serez mes enfants. Avec toute la tendresse et avec toute l'affection qui existe. Et encore une fois, on revient sur cette idée des pères. Et c'est vrai que dans ce monde, les pères ne sont pas trop top. Hein. On est tous pleins de péchés. On fait beaucoup de bêtises contre nos enfants. Mais même parmi les pères qui sont des êtres humains pécheurs, nous voyons la tendresse, n'est-ce pas? Nous voyons l'amour pour leurs enfants. Donc, si on peut magnifier par l'infini, hein, on va arriver à voir la tendresse, l'affection de Dieu. Et c'est ça notre privilège en Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul, il prend beaucoup de temps pour parler de cette idée que vous êtes fils et filles, héritiers, plus d'esclaves. Okay? La connaissance de Dieu, donc on peut dire la vie éternelle et le partage de la vie de Dieu avec quelqu'un, c'est Dieu qui partage, par une connaissance profonde et mutuelle qui existe entre les deux grâce à Jésus-Christ. Est-ce que vous avez cette connaissance? Vous parlez à Dieu, vous dites à, je te connais Dieu, peut-être juste un petit peu, d'accord? Il est un être infini. On ne peut pas dire qu'on a maîtrisé Dieu. Ça va prendre toute la vie pour développer notre connaissance. Vendredi, j'ai pu passer 1h30 avec un couple. En parlant, je dis, hein, connaître la femme, connaître le mari, ça prend toute la vie. Et nous sommes les êtres finis. On a devant nous Dieu infini. Ça va prendre toute la vie pour développer notre connaissance. Mais il faut la racine. Il faut la racine. Une vraie connaissance de Dieu est donc la vie éternelle parce que cette connaissance suppose l'existence d'une relation proche entre Dieu et une personne. Quand Paul dit, vous connaissez Dieu plutôt, vous avez été connu par Dieu. Il veut souligner ce fait. La vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. Et la question, c'est, est-ce que nous l'avons, cette connaissance? On peut. Sinon, on peut. En Jésus-Christ. La deuxième question ici, le deuxième point, c'est de ne pas connaître Dieu, c'est l'esclavage au non-Dieu. D'accord? Je préfère non-Dieu à faux Dieu parce qu'il dit, ils ne le sont pas, d'accord, le verset 8, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Ok? Ils ne sont pas divins par leur nature. Et ça, c'est important parce qu'on doit il faut se poser cette question, d'accord? Qui est le groupe qui est entré parmi les églises de Galatie et quelle est leur doctrine? Est-ce qu'ils étaient des païennes, cela veut dire les non-juifs, ou est-ce qu'ils étaient des juifs plutôt? C'était plutôt des juifs. Parce qu'ils voulaient convaincre ces chrétiens non-juifs d'observer toutes les lois de Moïse. La circoncision, les jours, toutes ces choses, n'est-ce pas? Voilà. On a vu ça, on va le voir, mais c'était plutôt les lois de Moïse. C'est pourquoi il veut dire beaucoup de fois que la loi servait quoi pour nous diriger envers Jésus-Christ? Donc, il ne faut pas lire ici quand il dit il était. Vous étiez des serviteurs des non-dieux, et après, pourquoi vous voulez revenir sur les éléments, les principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? On a cette idée qu'avant, ils servaient des non-dieux, des choses qui n'étaient pas nature non-dieu, qui étaient pauvres et faibles, misérables selon le Semeur. Aucun valeur selon le Bible français courant. En fait, leur fonction, c'était quoi? Les ABCD. On a déjà vu ça. Pourquoi je dis ça? D'accord? Ça, c'était un peu pas très clair. Leur nature, avant vous servez ces gens, ils étaient, ce genre de choses, ils n'étaient pas divins. Maintenant, vous voulez retourner, tournez-vous à ces faibles et pauvre, et le mot faible, ça peut communiquer, le mot pauvre peut être misérable, aucun valeur. Et la fonction est communiquée par cette idée des principes élémentaires. Okay. Et qu'est-ce qu'il voulait faire? Le verset 10, observer les jours, les mois, les temps et les années. Okay. Qu'est-ce qu'il voulait dire ici? Il existait un groupe de non-dieux, d'accord? Et ça peut parler du fait de leur passé non-juif, mais aussi des choses qui sont liées aux juifs, qui voulaient dire observer les jours, les mois, les années. Ce sont des choses qui sont des non-dieux Au niveau de capacité, ils sont pauvres et faibles, aucune valeur. Et en fait, ils doivent servir comme les ABCD. On a déjà vu ça. Et cette semaine, en réfléchissant sur ce qu'il disait ici, je voulais juste... je me suis posé cette question. Comment ces non-dieux agissent-ils comme maîtres dans la vie? Okay? Il faut arriver un peu d'application dans nos vies. Et je pense que le Seigneur m'a dirigé dans mes pensées envers la vie de Jésus. Okay? On va juste prendre un peu de temps ici pour réfléchir. On avait, pendant la vie de Jésus, souvent on avait Jésus et il était en conflit avec les chefs religieux de son époque. Okay? On va commencer par Jean 5. Est-ce que vous pouvez trouver dans vos Bibles Jean 5? On a les évangiles, Matthieu et Marc, Luc et après Jean. Et en Jean 5, c'est un chapitre qui est plein de choses. On ne peut pas plonger vraiment dans la profondeur, mais au verset 16, Jean chapitre 5, juste un peu de contexte. Jésus a guéri quelqu'un. Il a dit, le verset 8, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Bon, il l'a fait. Les chefs religieux ont dit, « Ah, tu n'as pas le faire ça parce que c'est le sabbat. » Il a dit, « Bon, quelqu'un m'a guéri. Je fais maintenant ce qu'il a dit. » Il a trouvé Jésus à nouveau. Jésus a dit, « C'est moi qui l'a fait. » Cet homme, il est allé au chef religieux pour faire, c'est celui-là qui s'appelle Jésus qui l'a fait. Et maintenant, les chefs arrivent, le verset 16, les Juifs poursuivent Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Et on n'est pas content, d'accord? Guérir quelqu'un le jour du sabbat, en fait, ça c'est une œuvre. On ne peut pas ouvrir le sabbat, ok? Et même, il y a 3 semaines, on a assisté à un concert, ils ont lu un livre sur les Juifs, et les Juifs étaient très fixés, même si quelqu'un casse son bras le sabbat, il ne fait rien jusqu'à le jour après. Et si ça reste après que c'est tordu, bon, je le sais. Il n'était pas content. Donc, le verset 17, Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi, j'agis. » Quel genre de réponse est ça? Ils disent, « Vous faites quelque chose qu'il ne faut pas faire. » Et lui, il dit, « Je fais ce que mon Père fait. » Il parle de sa connaissance, de sa relation. Eux, ils ont élevé la règle. Nous aimons la loi, nous aimons la règle, d'accord? Et il faut garder la règle. Et si quelqu'un doit souffrir, tant pis, hein? Mais c'est la règle qui compte, ok? Ça, c'est la chose qui est la plus importante. Que vous voyez? Quelque chose qui n'est pas par nature Dieu est devenu Dieu. La loi n'était pas là comme Dieu, mais ils ont élevé la loi, maintenant il faut servir la loi. Et si quelqu'un doit souffrir, on compatit, mais la loi dit. Et Jésus dit, non, moi, je fais ce que le Père fait. J'ai une relation avec lui. Et donc, en fait, Dieu reste Dieu. Parce que Jésus, dans ce même chapitre, il dit, « Je fais toujours ce qui plaît au Père. » Vous voyez la différence? La question, c'est comment ces choses qui ne sont pas Dieu par nature, comment il devient Dieu pour nous aider. Et comment on entre dans l'esclavage? On le fait quand nous élevons notre application, notre interprétation, nos règles, jusqu'au point où il domine sur tout. Et on perd la vue de Dieu. Un autre exemple, c'est en Matthieu 17. C'est une histoire assez bizarre. En Matthieu 17. Est-ce que vous connaissez cette histoire? Il y avait des gens qui collectaient des impôts. Hein. Mais ici, c'est un impôt qui n'est pas les impôts pour les Romains. En fait, c'est un impôt qui est pour le temple. Et je vous ai dit, vous pouvez regarder en Exode 30, 13. En fait, c'est une loi établie par Dieu. Chaque homme donne 2 drachmas et ça va soutenir le ministère du temple. Ok? Et donc, ces hommes arrivent devant Pierre et disent à Pierre, « Bon, ton maître, il paye ce taxe, n'est-ce pas ?» Et il pose la question d'une manière, en fait, qui attend la réponse « oui ». Et donc, Pierre, il ne réfléchit pas. Jésus est un bonhomme, oui. « Ah oui, bien sûr !» D'accord ? Certainement, il paye. Et en Matthieu 17, Jésus dit quelque chose qui était très intéressant. Okay. On va lire le verset 4. J'ai résumé ça. Oui. Quand il fut le verset 25, quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint, Pierre, et dit, que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers, ceux qui ne font pas partie de leur famille. Pierre dit, des étrangers. Jésus lui répondit, le fils en sent donc exempt. On laisse l'import de ce verset. Quand on veut parler de la loi et la connaissance, le roi est là et s'il est en relation familiale avec quelqu'un, il est exempt. Paul nous dit, avant vous ne connaissez pas Dieu, mais maintenant vous connaissez Dieu, en fait vous avez été connu par Dieu, la relation existe. Vous êtes donc libre et donc. C'est la liberté. Et maintenant, Jésus exerce sa liberté en disant, d'accord, donne l'argent à eux, d'accord? Je ne veux pas offenser. Mais je ne suis pas obligé. Et il souligne sa liberté, sa relation avec Dieu, en disant à Pierre, allez, tu vas trouver l'argent dans la bouche du poisson. Il aura pu dire, hein, demander à Judas, trésorier. Pourquoi il a dit, va trouver dans la bouche d'un poisson? Parce que ça souligne le fait qu'il a une relation avec Dieu, le Père, d'une manière miraculeuse. Mais quand on pense au chef religieux et l'argent, d'accord? Ils disent, oui, on a des règlements. On a des règles, la loi, et donc eux iront le dîme, pas juste pour les grandes choses, mais pour les petites choses, le mont qu'il reçoit et des petites plantes. D'accord, il faut prendre un dixième et on donne à Dieu parce que ça, c'est ce que la loi dit. Mais Le reste, c'est à eux. Le reste, c'est à eux. Et il y avait apparemment, si vous regardez en Luc 11, Marc 7, il y avait à cette époque-là cette idée que, d'accord, on peut dire que quelque chose est corban, ça veut dire un don pour Dieu, c'est l'argent qui est réservé pour le temple. On ne peut pas toucher. Une fois qu'un homme dit, d'accord, ce compte d'épargne-là, ça c'est pour le temple, je prends un vœu, et donc il ne peut plus toucher ça. Donc, on peut imaginer quelqu'un qui fait ça, il a peut-être 3000 euros dans son compte d'épargne, il dit, ça c'est pour Dieu. Un jour, il attend que ses parents ont vraiment besoin de son aide. D'accord? Ils n'ont pas l'argent pour vivre, ils n'ont pas l'argent pour peut-être payer le coût, le prix de santé, tout cela. Et il dit à maman, papa, je veux vraiment vous aider. Mais vous voyez, l'argent que j'ai mis à côté, j'ai déjà promis cet argent à Dieu. Malgré le fait que dans un autre compte, il a l'argent aussi, mais ça c'est pour les choses qu'il veut faire. Parce que lui, ça c'est pour Dieu, il est un bon homme. Il veut donner à Dieu. Mais lui, non, ça c'est pour nous et je ne peux pas partager ça avec lui. Et Jésus dit, vous êtes hypocrites. Parce que la loi est devenue votre Dieu. Vous donnez juste un petit peu le dîme, un petit peu plus à Dieu, et maintenant vous lavez les mains de vos parents et de tous les autres. Hypocrite. Vous m'aimez avec vos lèvres, mais pas le cœur. La connaissance de Dieu regarde. Et au moins, si les autres pensent que ce n'est pas très bon, mais on est libre de faire la volonté de Dieu avec la connaissance. Parce qu'on fait ce que le Père fait. On est exempt des principes élémentaires, mais pas pour faire ce que je veux seulement. En fait, je suis libéré de cette idée que, d'accord, j'ai donné mon petit partie de mon argent, ce que je pense que je voulais faire dans mon cœur, maintenant, je peux être dur et sévère et partage pas ce que j'ai. Parce que j'ai déjà fait. Et tout d'un coup, c'est plus Dieu qui est Dieu, c'est la loi qui est Dieu. Parce que vous voyez, ça c'est un peu compliqué. C'était compliqué pour moi cette semaine. Comment on peut pratiquer ça aujourd'hui? Nous croyons que nous sommes libérés de la loi. Et donc, comme Paul, on dit, quand nous donnons, par exemple, on va prendre cet exemple ici. Quand nous donnons l'argent, nous disons, il faut donner, on prend ce que Dieu nous fait prospérer, on prend une partie selon ce qu'il met dans nos cœurs, et on le donne. D'accord? Il est trop facile pour nous de tomber dans cette idée et de faire une règle, une loi, pour dire, d'accord, j'ai donné, maintenant, je ne partage rien de ce que j'ai. J'ai fait mon parti. Et nos esprits, d'accord, nos esprits deviennent plus durs que nos voisins et nos voisines qui ne sont pas croyants. Et on peut voir quel est notre réponse aux gens qui demandent l'argent, qui demandent l'aide. Je ne veux pas dire qu'on doit donner à tout le monde. Mais c'est un exemple. Quelle est notre relation avec notre Dieu? Est-ce qu'on fait ce que Dieu, on voit que Dieu le Père fait? Ou est-ce qu'on dit non, je préfère prendre la règle, la loi, et maintenant, je sers la loi. Je fais exactement ce que la loi dit, et maintenant, c'est OK. Nous sommes ensemble. C'est un peu... Non? D'accord. On voulait dire que la connaissance de Dieu, le Père, est la vie éternelle. C'est cette connaissance intime et proche. Jésus dit, moi, je ne suis pas obligé, en fait, de payer cette taxe. Parce que je fais partie de la famille. Quelqu'un vient et dit à nous, vous devez observer la loi. Et notre réponse doit être, mais nous faisons partie de la famille. Nous sommes exempts. Mais eux, d'accord, regardez en Galates, ils avaient la volonté, ils voulaient rentrer en dessous de la loi à nouveau. En fait, c'était des non-juifs. Et ils voulaient maintenant, parce que ces gens viennent, ils prêchent, il faut. Ils disent, d'accord, on a maintenant la volonté de nous soumettre en dessous de la loi de Moïse. Observer des jours, des mois, des années. Et pourquoi? Parce qu'ils ont perdu cette vue de la relation avec Dieu. Et ce que nous faisons naturellement, c'est que nous trouvons des règles beaucoup plus faciles que la relation avec Dieu. Nous devons faire attention. On peut discuter après un petit peu, parfois l'application, il faut prier et marcher selon l'esprit. Mais ce qui est très important de retenir, c'est ça, c'est la relation. Est-ce que nous avons cette relation avec Dieu, cette connaissance? Si oui, nous sommes libres. Nous sommes en liberté en Jésus-Christ. Pas pour faire n'importe quoi, mais nous sommes libres maintenant pour faire ce que Dieu lui-même veut qu'on fasse. Pas seulement pour établir des règles, des applications de ce que nous savons de Dieu, d'accord? On a notre liste. Nous faisons la liste. C'est bon. C'est bon. Parce qu'il y a un enjeu, ok? Pourquoi Paul dit, je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous? Pensez-vous. Qu'est-ce qu'il veut dire? Pour moi, je pense que c'est très clair. Si vous vous mettez sous la loi, d'accord? En Galates 4, vous observez jour, mois, semaine, année. Il fait référence à toutes les réglementations de l'Ancien Testament, de l'ancienne alliance avec Moïse et les Juifs. Si vous rentrez là, vous n'êtes pas en Christ. Vous tournez le dos sur la relation pour adopter, pour embrasser la loi. Et les deux ne vont pas ensemble. La relation, c'est la liberté. La loi, c'est l'esclavage. Et les fils ne sont pas des esclaves. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi en Galates, chapitre 5, il dit quelque chose qui est... ça aura dû être choquant pour les Juifs. Et pour les non-juifs, de savoir qu'un juif vient d'écrire ces paroles. Voici moi, Paul, verset 2. Je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Un juif peut écrire un truc comme ça. Un juif qui était un pharisien comme Paul. Oui, parce qu'il a compris. Il a compris. J'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. vous êtes déchus de la grâce. Ouf. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il faut choisir. Hein? Est-ce que vous allez trouver votre justice devant Dieu en Jésus-Christ? Est-ce que vous allez essayer de trouver votre justice devant Dieu dans votre propre pratique de la loi? Bon, pour nous, ce matin, c'est une question. Il faut regarder dans le cœur. Qu'est-ce que je fais? Quand je pense à Dieu, je dis, Dieu, je me connais que je fais, oui, je ne suis pas parfait, mais je fais pas mal de choses qui sont bien. Écoute-moi parce que j'ai, parce que je suis. Si on choisit ce piste, on ne va pas arriver d'être justifié devant Dieu. On ne peut pas faire. Parce qu'en fait, on n'est pas très honnête. On gonfle le nombre de bonnes choses et on diminue le nombre de mauvaises choses. On est comme ça. Mais dans l'honnêteté, si on dit à Dieu, regarde-moi, je suis rien, je pêche, accepte-moi en raison de Jésus-Christ. Là, le Père sourit, dit oui, je t'accepte. En Jésus-Christ. Complètement maintenant, tu fais partie de la famille. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Et c'est pourquoi nous disons, c'est la liberté en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous chantons les cantiques en Jésus seul. Parce qu'on ne veut jamais perdre la vue, la vision, que tout ce que nous avons, c'est vraiment dans cette personne Jésus. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous aide à vivre dans la beauté de cette connaissance. Nous sommes connus par Dieu et nous connaissons Dieu en Jésus-Christ. Et que Dieu nous épargne de la tentation de dire, d'accord, on va élever les choses qui ne sont pas Dieu par nature. Les règles deviennent nos dieux. Parce que ces règles ne peuvent pas nous sauver. Prions ensemble.